Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous y sommes avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Infatigable, nous allons continuer à taper encore le clou plus fort afin que le monde se réveille autour de nous. Réveillez-vous, chers citoyens, vous et vous seuls. Personne d'autre ne pourra changer quoi que ce soit dans cette société, dans cet univers qui souffre d'injustice. N'attendez pas des miracles de nos politiciens. Eux-mêmes sont traînés dans un courant destructeur. Ils ne peuvent point faire demi-tour. Donc, nous avons donc une société exemplaire, superficiellement, un peu trop pourrie de l'intérieur. Et nous avons tous intérêt de faire le ménage chez nous. Chacun avec ses outils de travail, son énergie, sa capacité, ses connaissances, sa détermination et son engagement. Nous arriverons forcément de remettre un peu d'ordre dans cette société qui est finalement la nôtre. C'est la conscience collective qui nous appelle à l'œuvre. L'autre a besoin de nous et nous avons besoin de l'autre. Travaillons en collaboration pour vaincre l'injustice, quelle que soit sa forme et son image. Mes chers citoyens, ne restez pas au pied des mots, bougez et tout bougera autour de vous. Mais d'abord, débarrassez-vous des barrières qui vous empêchent de voir l'horizon autrement. Un horizon où la justice crie victoire. Chers citoyens, si vous voulez apporter de l'eau au moulin, appelez-nous au 514-273-4302, 514-273-4302, ou bien nous écrire info@commercialmage-québec.com. info@commercialmage-québec.com. Avec vous ce matin au micro, Hadj Zitouni, un militant du MAJ, un mouvement en défense des droits de la personne. Mon invité aujourd'hui, c'est une personne extraordinaire. Une personne qui suffit de s'asseoir avec lui autour d'une table de discussion et vous allez comprendre rapidement qu'il reste encore de l'espoir dans ce monde. Vous allez comprendre mieux que mes paroles ne sont pas en vain. Donc, je l'ai rencontré chez lui à Laval. Et j'ai rencontré chez lui toute la simplicité du monde. Un homme d'une conscience qui déborde d'humanisme et qui nous rappelle par son intelligence et sa simplicité que nous sommes loin de la réalité. Tout ce qui est autre que la paix est une fausse route. Donc, il est entre autres artiste et membre des collectifs Échec à la guerre, une voix qui se lève pour stopper les agressions et les invasions militaires dans le monde. Il nous parlera brièvement de son parcours et qu'il a amené à tout mettre de côté pour venir en aide à l'autre. Après notre thème musical, chers auditeurs, chers auditeurs, nous allons revenir avec l'histoire et le témoignage de cet personnage qui est maître en lui-même, exemple en dehors de lui-même.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. La malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. « C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Rebonjour, chère auditrice, cher auditeur. Donc, mon invité de cette semaine est M. Daniel Gingras, un homme exceptionnel par son dévouement à la cause de l'homme, avec une grande majuscule. L'homme, chez M. Gingras, n'a pas de frontières géographiques qui le séparent, et encore moins la couleur, la religion, la culture, les langues, la pensée ou les idéologies. Tout ça demeure en dernier plan. Ce qui devance sérieusement le tout, selon mon interprétation à la pensée de M. Gingras, et qui devra prôner sur l'univers des hommes, c'est les liens de l'attachement et le sentiment de la solidarité entre les individus, entre les groupes, entre les peuples. L'agression de l'autre le dérange énormément. Bref, donc, il se sent agressé lui-même et il va vivre le drame de l'agression. Il y a chez cet individu des leçons à retenir. En parallèle à ses actions militantes, il poursuit des études universitaires. Donc, 1, 2, 3, donc il décroche, après une dizaine d'années d'études en éducation à l'Université de Montréal, un diplôme de 3e cycle. Donc ses études ne semblaient pas assez pour lui, et il s'est converti en poète, à la recherche d'un autre langage pour trouver des mots justes à sa pensée. Donc militant de la première heure, il s'est engagé au milieu de jeunes Québécois en difficulté, et il réussira à la fin de cette expérience d'en sortir plusieurs de la misère. Une émission, je pense, sera trop courte pour raconter tout son parcours. Bref, l'agression états-unienne contre l'Irak en 2003 le révolte. Elle le mit hors de lui. Vous allez voir comment il va réagir aux missiles qui tombaient sur l'Irak au cours de l'invasion de ce pays, qui, je préfère rien dire pour l'instant. De ne pas vous parler de résumé de cette agression, et je réserverai peut-être dans une autre émission. Donc, depuis, pour M. Daniel Gingras, les choses se sont de plus en plus aggravées, surtout avec la participation des Canadiens dans cette série de violations, d'agressions, de destructions, d'assassinats de peuples. Devant un constat de guerre injuste et terrifiant, M. Daniel Gingras rejoint le collectif Échec à la guerre, qui s'oppose à toute guerre d'agression, à toute volonté de domination ou de contrôle entre pays, nations ou autres communautés humaines. Il préconise un monde de paix reposant sur des rapports internationaux de justice, d'équité et de solidarité. Avant d'écouter mon entretien avec M. Daniel Gingras, je vous informe de la tenue du sommet Échec à la guerre qui se tiendra du 19 au 21 novembre prochain, ici à Montréal. Vous pouvez visiter le site du collectif Échec à la guerre pour avoir plus de détails. Et maintenant, nous allons céder la parole à M. Daniel Gingras, et prenez le temps de l'écouter écouter cette entrevue entre moi et lui.
Donc voilà, bonjour Monsieur Gingrin, merci de nous avoir d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être pour commencer, si vous pouvez nous dire en deux mots, ou bien nous dire deux mots sur votre engagement social.
Bien, disons que mon engagement social commence de longue date. De famille, mon père était déjà quelqu'un qui était engagé socialement et dans le milieu communautaire, les loisirs, les sports, etc. Et j'étais dans ce bain-là rapidement. Par la suite, à un moment donné, j'ai constaté qu'il y avait des problèmes au niveau de l'itinérance. J'ai constaté qu'il y avait des problèmes de violence.
Est-ce que vous avez vu l'itinérance vous-même ou vous l'avez constaté simplement?
À ce moment-là, je n'étais pas un itinérant.
Voilà.
Mais j'ai comme pu voir qu'il y avait des problèmes quand je me promenais à Montréal puis que je voyais des gens qui étaient couchés dans la rue.
Puis tu voulais dire que tu étais sensible à la cause?
Ça me dérangeait parce que je considérais que c'était pas normal qu'il y ait des gens qui soient sans abri, etc.
Oui.
Et puis que dans ce temps-là, il y avait tout le temps un jugement qui était porté contre eux. Plutôt que de les aider, ils jugeaient. Puis là, moi, ça m'irritait.
Oui.
Puis je travaillais dans une entreprise qui était belle. Puis à un moment donné, je regardais par la fenêtre.
Oui.
Puis là, je me suis dit, je peux pas croire que dans 25 ans, moi, être encore assis dans le bureau ici, à regarder par la fenêtre sans savoir ce qui se passe. Alors que si je quitte le bureau, je vais dehors puis je vais savoir ce qui se passe. Je suis parti.
Vous avez décidé d'aller sur le terrain.
J'ai décidé de quitter ma sécurité d'emploi, etc. et tout ça,
oui,
pour partir vers une nouveauté, vers la découverte d'un je ne sais quoi, mais qui était correspondant à ce que je pouvais comprendre, qui était comme un déséquilibre dans notre société entre la répartition entre la richesse des pauvres, les corrects, les pas corrects, et tous les préjugés qui sont relatifs.
Donc, j'ai bien compris, c'était à partir de là, il y avait un pacte d'engagement social.
J'ai commencé mon engagement social à ce moment-là. On retourne dans les années 70. Mmh. J'ai fondé un club de jeunes qui a commencé avec 3 personnes, puis qui s'est rendu jusqu'à 67 jours par semaine. Ça a été une belle expérience au niveau des jeunes.
C'était quoi vos tâches?
C'est que dans ce temps-là, il y avait un problème au niveau de l'éducation. C'est que quand tu allais sur le marché du travail, il n'y avait pas d'ouvrage pour nous autres. Puis quand tu arrivais sur le marché du travail, ils te demandaient, est-ce que tu as un secondaire 5, puis
oui,
si tu disais, je fais des études, puis j'ai fini mon secondaire 5, il disait, as-tu de l'expérience? Mais là, tu vas pas avoir d'expérience parce que tu étais aux études.
Oui.
Puis si tu étais avec quelqu'un qui avait de l'expérience sur un travail quelconque, tu n'avais pas nécessairement ton secondaire 5,
oui,
et là, ça nuisait. Fait que moi, j'ai essayé de créer comme un pont entre les deux, de dire, les jeunes qui vont aux études vont pouvoir vivre une expérience de travail non rémunérée,
oui, oui,
parce que c'est un club à but non lucratif que j'ai fondé, un café, avec d'autres personnes, et le club optimiste à l'époque. Et après ça, et ceux qui travaillaient à ce moment-là pouvaient venir rencontrer des gens qui étaient aux études, puis donc continuer d'avoir des rapports sociaux,
oui,
tout en développant des projets orientés pour la population, là, pour aider la population.
Et ce projet-là, il a duré combien de temps?
3 ans.
3 ans.
Et à la fin, j'aurais pu faire du 7 jours par semaine. Je faisais du 7 jours par semaine. J'avais 60 jeunes. Mm. Puis les gens, ils pensaient que je partais avec l'animation des groupes. Il y avait les animateurs autocratiques, mm, démocratiques et débonnaires. Puis moi, j'avais fait un petit test dans le temps. Puis ça disait que j'étais un animateur démocratique.
Mm.
J'ai dit coudonc, ça va bien aller, je vais avoir votre pensée.
Mais après 3 ans.
Après trois ans, on a fermé parce que les gens sont partis, ils avaient vieilli, puis tout ça. C'était comme jeunesse, là.
Toutes ces jeunes-là,
puis il y a les gens qui se sont mariés, puis il y a eu une grande expérience. De ces jeunes-là, il n'y en a pas un qui n'a pas travaillé par la suite. Tous se sont trouvés de l'emploi. Il y a eu 3 mariages. Il y a eu des gens qui me disaient, qui me faisaient des témoignages que l'expérience qu'ils avaient vécue avait été formatrice pour eux autres. Parce qu'au début, ça nous prenait peut-être 3 mois à monter un projet.
Oui.
Puis à la fin, on s'assoyait à une table, puis on divisait le groupe en équipe, puis tout le monde montait son projet dans la même soirée. Fait que le plan de travail, là, le plan d'action.
Donc cette porte-là est fermée, et après ça, il y
avait... Après ça, moi, je me suis en allé travailler dans une base de plein air,
oui,
pour une école, une commission scolaire, puis
vous
base de plein air pédagogique.
Vous avez fait des études en quoi, monsieur?
Moi, j'ai fait des études études en éducation. Au départ, c'était un bac à sort avec un cumul de certificats, c'est-à-dire animation, créativité et instructeur en milieu de travail. Le deuxième, j'ai fait une maîtrise en éducation, psychopédagogie et en pédagogie. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé comme j'ai fait ma scolarité de doctorat en éducation en recherche en différenciant la question principale, c'était le savoir formel, celui qu'on apprend en institution et le savoir qui l'est pas. Et le second, c'était la différence entre une recherche développement et une recherche action.
Donc vous êtes quand même un spécialiste en éducation, si je ne me trompe pas.
Je suis un spécialiste en éducation, mais je suis d'abord et avant tout un travailleur de terrain. Je suis pas un spécialiste. Je suis pas devenu un chercheur. J'ai une approche militante. Donc, l'éducation, pour moi, j'étais un autodidacte qui allait chercher des cours pour parfaire mes connaissances dans le but de toujours travailler sur le terrain. Et je suis...
Après l'expérience de 3 ans avec les jeunes et tout, vous êtes allé vers quoi?
Disons que j'ai été... Après ça, travailler pendant une certaine période dans une base de plein air et dans des centres d'accueil pour jeunes qui avaient des troubles, différents troubles de vie, il y avait des différents troubles. Et ensuite de ça, je travaillais aussi pendant ce temps-là en sécurité routière. Puis il m'est arrivé un moment donné, une période dans ma vie où je me suis moi-même divorcé. Et à ce moment-là, ça m'a ébranlé et j'ai laissé mon emploi. Et à ce moment-là, je me promenais et j'ai rencontré une personne qui voulait me parler, puis auquel je voulais pas vraiment nécessairement parler, mais qui m'a amené.
C'est coïncidence ou quoi ça?
Je crois pas aux coïncidences. Je pense que la personne c'était pas une personne qui s'était prévu que je rencontre, mais il a été sur ma route et de cette expérience là qui en était une de violence vers lui ou vers d'autres, il m'a amené à vouloir l'écouter. Pour l'aider à ne pas suicider ou qu'elle aille blesser ou
tuer si quelqu'un compris, d'autre. C'est personne qui a voulu suicider, puis il a
C'est quelqu'un qui avait vécu un traumatisme. Et de ce traumatisme-là, au départ, il y avait de la violence envers quelqu'un d'autre. Et j'ai amené à réfléchir sur le fait que ça lui apporterait rien de s'en aller dans cette voie-là. Et là, il a reviré la colère contre lui-même. Et quand il a reviré la colère, là, il a commencé à parler de suicide. Puis là, j'ai commencé à essayer de... J'ai essayé de lui dire que il y avait un doute que de créer un doute dans son esprit en parlant de la vie, que s'il y avait une mort après, s'il n'y avait pas de mort puis qu'il n'y avait pas de Dieu, mettons, ou de vie après la vie, qu'à ce moment-là, ces troubles étaient finis, mais les autres autour restaient là, puis que s'il y avait une vie après la vie, puis que il était pas bien et que dans l'éternité il serait pas bien, c'était peut-être mieux d'améliorer son existence présentement pour que quand il sera prêt pour le grand départ, il soit dans une position de calme et de confort à ce niveau-là. Et de cette expérience-là, comme moi je voulais pas y parler, que lui a insisté, moi ça m'a donné une leçon de vie en disant, il y a des fois des gens qui sont que tu rencontres et que ces gens-là peuvent vivre des difficultés qui font que tu peux les aider et que quand tu les aides, ça t'aide toi aussi. Donc tu grandis et l'autre grandit dans ça. Il y a un échange, une interdépendance.
Tu veux découvrir pour mieux peut-être pour l'importance de la communication entre les individus, j'imagine.
Oui. Puis moi, comme je suis croyant, puis que je crois à aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et je ferai de vous des êtres libres. Donc c'est pas de s'aimer soi, puis c'est pas non plus de les autres seulement, c'est de s'aimer les soi et les autres parce que c'est la relation qui nous fait grandir. On a une perception de nous-mêmes, les autres ont une perception d'eux, mais dans la relation, on apprend à se connaître et on peut grandir dans ça. Et j'ai pas une vision non plus qui est. J'ai une vision de contexte universel là, dans le sens où, pour moi, j'ai une vision œcuménique. J'ai étudié en religiologie, donc j'ai étudié étudié les religions par après. Là. Fait que c'est pas difficile pour moi de comprendre les gens de d'autres, de d'autres.
Mais M. Jean-Grain, je veux savoir aussi, vous avez passé une expérience avec les jeunes pendant 3 ans. C'est un cet événement qui vient d'arriver, et j'imagine le type qui a voulu se suicider, il n'a pas passé à l'action, j'imagine. Donc,
Non.
Il avait quand même sauvé une vie, si je ne me trompe pas. Et à partir de là,
Et mon engagement a commencé d'abord avec moi-même. Il a fallu que moi, je fasse la paix avec moi-même, parce que soi-même, on n'est pas parfait, puis éventuellement, on fait des erreurs dans notre vie. Puis de ces erreurs-là qu'on commet, faut apprendre de nos erreurs, donc essayer de se parfaire. Ouais. Donc, j'ai commencé en travaillant sur moi-même. Mais en même temps, j'ai rencontré des gens et j'ai eu la chance, dans mon cheminement, de travailler avec des gens qui avait des pensées suicidaires. J'ai travaillé avec des gens qui avaient des problèmes de toxicomanie, de criminalité. J'ai travaillé avec des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. J'ai travaillé avec des gens qui avaient des problèmes qui pouvaient avoir des problèmes avec les accidents de la route. Parce que j'ai été 25 ans prof de conduite avec le seul souci de sauver, soit des gens de la blessure ou de la mortalité. Et ensuite de ça, j'ai travaillé, dans des groupes sociaux, qui vivaient des difficultés, soit reliées à la pauvreté ou à d'autres différents types de problèmes. J'ai travaillé en éducation dans tous les milieux, soit en éducation spécialisée, des jeunes avec des troubles de comportement, ou j'ai travaillé aussi l'an dernier avec la guerre.
Ce qui me ramène à dire que c'est-à-dire votre engagement, il vous a fait quand même grandir, dire que vous étiez toujours contre la violence, c'est ça votre position, jusqu'à vous avez, j'imagine, à partir du 11 septembre, où vous avez...
Mon engagement premier où j'ai été ouvert à vouloir travailler pour la paix, c'était dans les années 70, dans la guerre au Vietnam, où j'ai embarqué dans le mouvement hippie à l'époque, qui était contre la guerre. Donc, Lennon puis les gens de Californie puis tout ça m'ont influencé à ce moment-là. Ensuite de ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient dans des groupes criminalisés à l'époque et que j'ai voulu comprendre comment ça se fait qu'ils étaient devenus comme ça. Oui. Et j'ai été les rencontrer pour les connaître davantage. Et j'ai compris que il y avait des influences qui étaient parfois reliées à tout ce qui pouvait, tout ce que pouvait apporter d'intéressant, qui pouvait être plus intéressant, mais qui était un attrait pour eux, mais qu'en même temps, le prix à payer pour cet attrait-là était peut-être dispendieux, puis je me disais, il y a peut-être moyen de faire les choses autrement.
Je comprends. Donc,
chers auditeurs, nous allons faire une pause musicale suivie par une publicité et nous revenons avec la suite de l'entrevue. Restez à l'écoute.
Tant de boucan dans ma poitrine, est-ce bien nécessaire? Travailler en français, c'est créer de l'emploi.
C'est payant. C'est un droit.
Moi, je travaille en français.
Je travaille en français.
Travailler en français, c'est se faire respecter. Un message d'Impératif français.
Dimensión Cubana, una emisión de la tabla de concertación de solidarité Québec-Cuba, tous les mardis à 21h40.
Entrevue, musique, informations sur la réalité cubaine, tout ce que les médias traditionnels ne vous disent pas, et des invitations aux diverses activités sur Cuba réalisées à Montréal.
À Radio Centreville, 102,3 FM.
Qu'elle s'appelle Cocotte, vieille bagnole, bazou, taco, minoun, votre vieille voiture peut terminer ses jours la tête haute et aider à sauver des vies. Ici Jacques Duval. Participez à la lutte contre les maladies rénales en donnant votre vieux véhicule à la Fondation canadienne du Rhin. Le remorquage est gratuit, vous recevrez un reçu d'impôt et votre auto sera entièrement recyclée. Faites don de votre vieux véhicule en appelant au 1-888-228-8673 et visitez rhinquebec.ca.
Pour être bien informé sur ce qui se passe en Haïti et partout dans le monde, branchez-vous sur Magazine Créole, 102.3 FM, Radio Centreville, tous les dimanches, 8h PM.
Magazine Créole, une émission chic, chic, choc. Nouvelles locales, nouvelles nationales, nouvelles d'Haïti et tous les points chauds qui ont marqué l'actualité avec Robinson Élisée et Reynold Alexandre.
Amis, camarades, rendez-vous cassé.
Radio Centreville, depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc voilà, revenons avec mon entretien avec Monsieur Daniel Gingras, poète et membre du collectif Échec à la guerre, une voix qui se lève pour stopper les agressions militaires dans le monde.
Je comprends bien que la question de la paix contre la guerre et tout ça vient de très loin, mais si on se reproche un petit peu dans les années 2000, qu'est-ce qui vous a ébranlé un petit peu dans...
Ben, disons que c'est arrivé curieusement parce que je venais de finaliser une période où j'ai travaillé en moto avec des et j'utilisais, j'avais des gens de toutes les nationalités qui venaient, ouais. Et j'entrais en contact avec eux par le biais de sages ou de personnes ou de contextes qui venaient de leur pays. Et ça allait bien, le rapport était bon. À un moment donné, j'ai échangé avec une personne qui venait de la Tunisie.
Oui.
J'ai étudié Mahomet, j'ai étudié le bouddhisme, j'ai étudié l'ensemble des traditions religieuses, les grands courants, là, judéo-animistes.
C'est dans le contexte de la recherche à la paix ou quoi?
Oui, parce que j'avais prévu que moi, même quand je me suis marié, j'ai marié une personne d'une culture religieuse différente de la mienne. Et à ce moment-là, il y a eu un choc culturel par rapport à ça. Puis tant qu'on n'apprend pas à connaître l'autre devient comme quelqu'un qui peut nous faire peur ou qui nous dérange. Oui. Et comme j'avais déjà vécu des difficultés par rapport à ça, quand j'ai vu qu'à un moment donné, il était pour avoir une rencontre des différentes cultures qui se développaient et que j'aimais personnellement parce que je disais que une des choses que Trudeau m'a apporté de positif là, c'est le fait d'avoir permis aux gens de l'extérieur de venir ici. Comme j'avais pas les moyens de voyager, ben j'avais pas besoin d'aller chez eux, c'est eux autres qui venaient voir. C'est donc qu'on se rencontrait comme ça, mais que je prévoyais dans les écoles qu'il pourrait y avoir des difficultés qui pourraient se dégager, puis qu'il fallait trouver une manière de pouvoir être capable de partager toujours dans le même esprit, d'apprendre à se connaître pour qu'on puisse se respecter les uns des autres puis vivre ensemble dans l'harmonie le plus possible.
On revenait toujours à l'action. Là.
Et à ce moment-là, c'est que j'ai rencontré, par la suite de ça, j'ai rencontré une personne qui venait de la Tunisie et qui est venue voyager en voyage ici et qui était musulmane. Et pendant cette période-là, c'est juste ce qui précède juste les événements du Centre mondial du commerce. Et cette personne-là, quand je l'ai rencontrée, On échangeait, j'ai fait voyager ici, puis ensuite de ça, elle est retournée, puis elle a rencontré quelqu'un, puis elle a continué ses études et sa vie. Mais moi, j'avais à ce moment-là développé un projet qui était d'aller mettre un nid de clowns avec les. J'avais rencontré les Clowns sans frontières avec les Artistes pour la paix. J'avais rencontré les Clowns sans frontières qui voulaient mettre un nid de clowns qui vendait, qui faisait le journée pour combattre le problème des enfants à la guerre, des enfants soldats, comme Kadar. Qui actuellement était un enfant à l'époque où il y a eu des problèmes là, et que je souhaite qu'il va être rapatrié au plus beau juste là. Et à ce niveau-là, moi j'ai dans le but de faire du financement pour aider les Clowns sans frontières à aller pour rencontrer les gens à l'extérieur pour développer des arts du cirque plutôt que d'en faire des enfants soldats. J'avais voulu faire un projet qui était de mettre un nid de clown sur la Statue de la Liberté. Mais pour faire ça, ça prenait les Clowns sans frontières, Patch Adams, et j'aurais aimé que le général Dallaire soit là pour parler avec le gouvernement américain pour pouvoir pouvoir avoir les permissions de le faire. Après ça, d'avoir le Patch Adams qui expliquait la symbolique de ça et le Jean Thériault à l'époque qui était de Clowns sans frontières dans le but d'expliquer à quoi servirait l'argent que rapporterait le net clown. Fait que c'était d'un coup faire une publicité de marketing social qui aurait été énorme.
Et ça vous a mené à quoi?
Et ça n'a pas fonctionné parce que le 11 septembre, je cherchais de l'ouvrage, j'allais dans un bureau d'emploi, puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré une dame qui me dit, tu sais pas ce qui est arrivé un matin, il y a eu des avions qui viennent de rentrer dans le Centre mondial du commerce. Fait que là, ça m'a brassé. Puis là, la première idée qui m'est venue, c'est faire le bord de mon net clown. Il voudra plus. Et là, ça a tout de suite commencé à me brasser parce que là, il commençait à dire que c'était Ben Laden et des terroristes qui s'en venaient attaquer les États-Unis. Puis là, ben moi, ça m'a brassé parce que je venais de vivre un élément complètement différent de rencontre culturelle qui était très agréable. Puis là, je voyais une rencontre culturelle qui était complètement désagréable.
Le projet est complètement démoli, quoi.
Et le projet était démoli. Fait que tout de suite, le lendemain, le 12, j'ai été au bureau du député. J'avais écrit un poème qui s'appelle « Concerto pour la vie ». Concerto de Québec qui s'appelle maintenant ou une lueur d'espoir dans la nuit là, qui était un problème, que j'ai envoyé à M. Chrétien et envoyé à M. Bush dans le but de pouvoir lui de pouvoir l'influencer dans le fait que la guerre ne serait pas une solution parce que les êtres humains fondamentalement on s'aime mais des fois on a des résistances qui se vivent et j'ai été à un bureau du député fédéral pour faire ça. J'ai pas eu de réponse à savoir s'ils l'ont fait ou pas parce que quand je suis retourné pour avoir les accusés de réception, ils m'ont dit que la personne était changée de bureau, mais il serait possible de la retracer, la personne. Puis le deuxième, c'est que le 15, j'ai commencé à ce moment-là à écrire une lettre d'opinion que j'ai envoyée à M. Kofi Annan, à Bernard Landry, à Marc Laviolette, à la Fédération des femmes du Québec et à un autre groupe dont je me rappelle pas. Et le but de ça, c'était de manifester mon opposition à cette guerre qui était potentiellement en train de se développer. Si on rentrait dans la confrontation de un par rapport à l'autre, c'était pour déclencher. Puis quand je me couchais, je voyais les morts, puis je voyais la tragédie qui s'en venait. Et c'est là que j'ai commencé à insister. Puis j'ai, pendant cette période-là, monté une banque de données avec 60 boîtes de courriel où je rentrais des adresses dans le but d'essayer d'envoyer mes lettres pour à travers le monde, là, des groupes de femmes à travers le monde.
Vous essayez de sensibiliser tout le monde?
J'essayais de sensibiliser tout le monde au fait qu'il fallait s'opposer à ce qui pourrait être une guerre éventuelle parce qu'à ce moment-là, c'était un moment de grande tension, mais il n'y avait pas eu d'attaque encore, là, il était toujours dans la négociation, mais on voyait qu'il y avait quelque chose qui faisait que ça pouvait se débrancher. Puis à un moment donné, un soir, j'ai écouté à TV5, Thierry Messant, qui a écrit un livre, L'effroyable imposture. Et lorsque j'ai écouté cette émission-là, c'était en France qu'il était, il est rentré dans un studio, et là, tout le monde riait de lui au départ, puis tout d'un coup, il a commencé à raconter qu'est-ce que lui voyait, comment il analysait le problème. Et quand j'ai vu tout le monde sortir, arrêter de rire et commencer à dire « Oh boy! » Il y a un côté logique de ce qu'il exprime. Oui. Et si ça, c'est la logique, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'on s'en va pas dans le bon sens, mais pas du tout. Et là, ça m'a encore plus motivé à vouloir œuvrer dans ce sens-là. Et j'ai continué à travailler en envoyant mes lettres un peu partout à travers le monde. Ici et à travers le monde, essayant d'influencer les gens. D'ailleurs, j'ai écrit au groupe Poets Against the War, contre la guerre, qui est un. Il y a 7 groupes de militants aux États-Unis qui étaient contre cette guerre-là et qui ont écrit dans ce sens-là. Et après ça, j'écrivais ici et j'ai fait une action et j'ai même écrit à ce moment-là à Kofi Annan demandant qu'il y ait une intervention pour empêcher, mais en même temps pour dire qu'il ne fallait pas que Bush prenne une décision seule de faire ça. C'est que j'essayais d'expliquer comme le climat, la désorganisation, l'anxiété, la perturbation, la dangerosité, la position.
Mais votre parti individuel, vous êtes devenu membre déjà chaque à la guerre, j'imagine.
Disons que dans ce mouvement-là, moi, j'ai commencé tout de suite. Quand il y a eu les attaques en Afghanistan, j'ai été 3 ans, à 3 jours et 3 nuits, au moment où il y a commencé ces attaques en Palestine, et j'ai commencé à faire déjà j'ai commencé à faire à écrire. Ça me prenait, à chaque fois je voyais un missile, parce que j'ai été 3 jours, 3 nuits à écouter la télévision, et tout ce que je voyais, c'était les missiles qui partaient. Puis à ce moment-là,
voilà, donc nous allons faire une pause musicale et nous revenons avec notre entretien avec monsieur Daniel Gingras.
Dans la chambre sans bruit, la nuit, nous faisons route. Amoureux solitaire, sans regarder derrière. Nous fuyons tous les deux, tu me dis qu'on est fou. Alliés là, dans l'ombre, tu éclaires. Dans les draps de satin, noirs étaient nos nuits blanches.
Donc, rebonjour, monsieur.
Tu m'ouvrais la voie, moi je cambrais les hanches. Brûlant de la peau, puissant des parfums, de la sueur, de l'autre. Comme deux sans-abri au milieu de l'orage, sous les coups, sous la pluie, nous joignons nos visages. Au-delà des réels, mon amour avec toi. Allez, viens, on s'arrache. Allez, viens, on se crache. Thank you.
que nous brûle passion, que nous mène l'union aux hallucinations, que la peur dans tes yeux fasse monter l'acide jusqu'aux portes de tes lèvres, aussi noires que la nuit, qui nous emmène au large sur des terres sacrées, où l'on aime à saigner, où l'on aime à s'aimer, que l'on meurt maintenant dans ce lit fugitif.
Donc, rebonjour, monsieur Daniel Jeangrand. Vous disiez tantôt que chaque envoi d'un missile, vous, vous envoyez une lettre d'amour, c'est ce que vous m'avez dit?
C'est que j'avais écrit un texte et ça me prenait une minute et demie de télécharger. Puis c'était un texte qui était à l'encontre de la guerre, donc de s'opposer à ce guerre-là, mais de s'opposer d'une manière pacifique. Là.
Vous envoyez ça à...
Et ça me prenait une minute et demie pour le télécharger et de le faire parvenir. Là. Et j'ai refait toute la banque que j'avais déjà faite au début. Tous les courriels, je les ai tous refaits.
Pour une durée combien de durée?
Ça a duré 3 jours et 3 nuits, jusqu'au moment où je tombais épuisé. Là,
vous n'avez pas arrêté pendant 3 nuits?
3 jours et 3 nuits, total. Ouais.
My God. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui a entraîné le Canada d'être en guerre aujourd'hui? Et est-ce que, selon vous, le Canada peut faire marche arrière? Oui ou non?
Ce qui a entraîné le Canada, je pense que la proximité, parce que là, si on se rappelle bien à ce moment-là, c'est que George Bush, il disait il y a le triangle du mal, vous êtes pour moi ou contre moi, et à ce moment-là, le Canada étant un pays qui est à proximité des États-Unis, puis que les États-Unis en quelque part ont un rôle très important en ce qui a trait, où il y avait un rôle très important à l'ONU, donc à ce moment-là, la position, la proximité du Canada versus des États-Unis
est important.
Et en même temps, il y a aussi tout le rapport avec la production d'armement. Là. Il y a 3 millions de personnes qui vivent de la production d'armement. Puis ma thèse à moi, c'était que ça faisait longtemps qu'ils faisaient des armes, les entrepôts étaient pleins, puis il fallait qu'ils évitent. Il y a eu un intérêt commercial à cet effet-là. Ouais. Et est-ce que vous me disiez...
Les conservateurs maintenant aujourd'hui au pouvoir, pensez-vous qu'ils sont allés plus loin ou ils peuvent faire marche arrière?
Je pense que quand George Bush qui a créé quand même un malaise à l'échelle mondiale, pour ma part, c'est la première fois qu'une personne prenait le contrôle de la Terre en utilisant le régime de la peur dans un sens.
Et en obligeant aussi la plupart des gens de la plupart des pays de s'impliquer là. C'est
et en demandant au pays de s'impliquer. Et à ce moment-là, c'est que quand j'écoutais les réponses des gens, que ce soit le Canada, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis ou que ce soit
l'Angleterre,
c'est que eux se polarisaient autour de la pensée américaine, si on peut dire, et allaient à ce sens-là. J'étais pas plus en accord avec ce que Ben Laden avait fait, mais comme Ben Laden était quelqu'un qui avait fait partie de la CIA, qui était la branche de l'Al-Qaïda, puis qu'il était une personne qui pouvait aussi monter les gens de ce pays-là contre cette nationalité-là, contre les États-Unis, ben c'est qu'ils montaient, ils divisaient le monde en deux, puis qu'ils s'attaquaient, mais que dans le fond, c'était deux leaders qui moussaient la guerre pour deux personnes. Donc, pour moi, en tout cas, puis il y a beaucoup de données qui sont à vérifier, mais qui font qu'il y avait beaucoup d'argent qui se faisait à ce moment-là. Puis, je pense que il aurait dû, et que Bush, moi, je trouve que l'erreur que George Bush a faite à ce moment-là, ça a été de ne pas attendre que le Conseil de l'ONU, des pays membres de l'ONU, prenne la décision. Donc, en prenant le contrôle de la planète et en ayant des pays autour, ben ça a fait les ravages que nous connaissons, puis ça a reviré contre les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont pris une position où ça a fait en sorte que même aux États-Unis, il a perdu, il a pas eu gain de cause, et que M. Obama maintenant a remplacé, et je pense que Bush a travaillé allègrement à faire en sorte que M. Obama
rentre,
la population. Et je pense que le Canada, encore aujourd'hui, quand George Bush s'est retiré, le Canada a voulu envoyer des troupes, a voulu continuer la démarche. Et je pense que c'est une erreur, parce que si on prend au niveau du Québec, au Québec, il y a eu le Bloc québécois, entre autres, a fait trois propositions pour rapatrier les troupes qui étaient en Afghanistan. Et à chaque fois, ça a été battu, soit parce que des conservateurs ou des gens du NPD se sont alliés ralliés aux conservateurs et pour différents intérêts. Et à ce moment-là, ben, ça a fait que ça a continué. Mais je pense que la guerre va cesser quand les gens vont décider qu'ils arrêtent de se faire la guerre. Et dans ce contexte-là, je pense que les interventions humanitaires ou de formation ou d'éducation ou d'aller aider les pays sont beaucoup plus importantes et seraient beaucoup plus avantageuses. Et d'ailleurs, ça a nuit même au Canada à rentrer dans la position qu'il occupe dans le monde. Lui a même nuit pour le Conseil de sécurité. C'est pas pour rien qu'il n'a pas été nommé là-bas. Il a retiré sa candidature, mais s'il l'a retiré, c'est parce qu'il pensait pas qu'il était pour gagner. Fait qu'il y aurait avantage à quitter et à cesser de faire de la guerre puis aller plus vers la coopération internationale. Ce que M. Mitterrand m'avait répondu quand je lui avais écrit, la France, quand j'avais écrit au président de la République française, c'est ce qu'il m'avait dit. Il dit, nous, on va être contre la guerre, on est contre la guerre et davantage pour la coopération internationale. Et je pense que si on s'enlignait vers la coopération internationale, on aurait plus d'avantages. On est capable, en cessant le plan militaire, en déplaçant l'argent à des investissements plus positifs à ce qui me concerne, de nourrir deux fois la population actuelle. On serait capable d'emmener les gens à être capables de pouvoir s'éduquer jusqu'au bac en ayant les études payées par l'État. Puis on serait capable de soigner beaucoup plus d'individus. Et je pense que les besoins de lutte aux problèmes sociaux, si je me base sur ce que le président d'Amnesty International disait, c'est quand on va faire de la lutte à la pauvreté, on va régler le problème de la pauvreté, on va régler en même temps des problèmes de criminalité, de terrorisme.
J'aurais une dernière question. Vous êtes un individu, un militant, un citoyen, un simple citoyen qui est engagé. Et vous pensez que si des milliers de personnes comme vous prennent l'exemple, pensez-vous que au niveau des politiques, de la politique, ça peut changer?
Ben, quand on regarde Échec à la guerre, moi, quand j'ai dès les premières marches d'Échec à la guerre, la première, je crois qu'on était 40 000 qui marchaient, qui était organisé par Échec à la guerre. Je crois qu'on était 40. La deuxième, on était 250 000 et il faisait moins 40. Exactement. Donc, il fallait vouloir la paix. Oui. Puis dire, nous autres, on n'embarque pas. Mais le Québec a toujours eu une valeur de pas se battre. C'est pas des gens qui ont une pensée guerrière. C'est des gens qui sont plus festifs c'est plus des gens qui aiment aller vers les autres cultures ou recevoir les cultures. Et c'est pas très. Puis à ce moment-là, quand il y a eu la marche de 250 000, à ce moment-là, Jean Chrétien était supposé envoyer des gens. Des soldats ou des bateaux, et le lendemain il a changé d'idée parce que tant au niveau du Québec, Montréal et du Canada, à l'échelle du Canada, l'opposition était tellement grande que c'était je pense qu'il y a eu des ça l'a influencé à ce moment-là à changer sa position. Et par la suite il a continué, mais les gens se sont comme habitués.
Mais ça veut dire qu'il y a toujours un espoir, c'est ça?
Ah oui, c'est sûr.
Donc, rebonjour, M. Daniel Jagra. Le 19 au 21 novembre, il y a le sommet Échec à la guerre. Pensez-vous que ce sommet peut faire un changement, peut apporter un changement?
Depuis que j'ai entendu parler que Échec à la guerre et la coalition Échec à la guerre travaillaient à organiser un sommet, je crois sincèrement que plus on va être de gens qui vont participer à ce sommet-là, les citoyens ont le pouvoir de changer les choses. Et le sommet est un bon moment pour être capable de réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette dynamique de violence, qu'est-ce que rapporte la guerre et en quoi ça nuit la guerre, et en même temps, quels sont les moyens qu'on pourrait prendre pour être capable d'influencer les gouvernements pour qu'ils cessent de se faire la guerre et qu'ils investissent l'argent où il faudrait pour qu'on s'améliore. Je ne suis pas capable de comprendre. Gandhi disait, ce n'est pas votre ennemi que vous devez combattre, mais l'erreur de votre ami lorsqu'il y arrive de se croire votre ennemi. Et je crois qu'il faut s'attaquer au problème. Et tant et aussi longtemps qu'on ne décidera pas de laisser tomber les armes pour faire autre chose, ça va continuer à l'entretenir. Et pour moi, cet entretien-là mène à la destruction, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan humanitaire, que ce soit sur le plan économique. On regarde les États-Unis comme ils sont endettés. Dans les compagnies ont fait de l'argent, mais le gouvernement a perdu de l'argent. Les citoyens perdent de l'argent. Au Canada, c'est pareil. Ils mettent de l'argent pour acheter... je me rappelle, Brian Mulroney, il a fait 300 000 piastres pour des hélicoptères. C'est pas la bonne place qu'il faut investir, à mon avis. Puis je pense que si on veut améliorer l'image, il y a un groupe qui s'appelle Conscience Canada, moi, qui m'a influencé l'année passée par le fait que les gens qui ne veulent pas que le gouvernement dépense de l'argent pour les opérations militaires peuvent déposer leur impôt dans ce compte-là en fidécommis, et on pourrait à ce moment-là avoir un rapport de force pour influencer le gouvernement à aller dans le sens qui devrait être beaucoup plus positif ou beaucoup plus promoteur de la vie que de la destruction et de la mort.
Donc je prends bien ça comme une invitation, un appel aux citoyens pour qu'ils participent le 19 au 21 le mois de novembre prochain pour le sommet d'Échec à la guerre.
Ah, tout à fait, plus on va être nombreux, parce qu'on fait tous partie du problème et de la solution.
Merci.
Donc, choisit ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Tant trahi de conflits et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission. Je souhaite remercier M. Daniel Gingras de cette grande leçon qui n'a pas de frontières finalement et que j'espère servira à nous sensibiliser d'agir dans ce sens collectif. Donc merci aussi à Mario Languet, technicienne au son. Je profite aussi de dire merci à Charlotte et son copain qui nous ont apporté de très loin un gâteau délicieux et on leur souhaite un bon retour à la maison. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. À moi, je vous dis, chers auditrices, chers auditeurs, à vendredi prochain et à bientôt.
Radio Centre-Ville vous invite à faire connaître davantage vos produits et services. Vous êtes en affaires et aimeriez cibler certaines communautés de Montréal? Rien de plus simple. Nous vous aiderons dans la conception de votre message publicitaire et dans la stratégie à adopter pour vous adresser aux communautés que vous aimeriez rejoindre. Nous leur parlerons de vous dans leur langue maternelle. Ce sera donc personnalisé et fort sympathique. Radio Centre-Ville est à but non lucratif et nos tarifs publicitaires sont tout petits. Pour de l'information sur votre publicité à Radio Centre-Ville, rejoignez Daniel au 514-495-8836 495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de vous sur Radio Centre-Ville.
Bonjour, ici Claude-Marie Landré. Tous les lundis de 1h30 à 2h, je vous invite à écouter l'émission Trame sonore qui parle de musique, de film, musique à l'image. Des entrevues, des découvertes musicales sont au rendez-vous. Ne manquez pas Trame sonore de 1h30 à 2h tous les lundis sur les ondes du 102,3 FM du Pur Plaisir.
Le 3 novembre à la 5e salle, le Festival du Monde Arabe de Montréal présente Goya d'Arabie. Francis Goya prolonge les cordes de sa guitare pour les enraciner en Amérique du Nord. Des sonorités plurielles d'ici, une guitare odysséenne d'ailleurs. www.festivalarabe.com.
Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.